This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's now time for French Language and Culture on Paris s'éveille on Plains FM.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Kia ora, welcome to Paris s'éveille, the French radio program that discusses all things francophone in Canterbury and beyond, hosted by Plains FM and sponsored by the Alliance Française of Christchurch. I'm Antonio Vaselli.
And I'm Eric Mwinka.
We co-host this show every first and third Thursdays of the month at 7 p.m. This program is also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on the Auckland-based French Access Radio program, Amuse-Gueule. Please remember you can download the podcasts on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes. Also, do not hesitate to like and share our program's Facebook page, where you can also get in touch with us with questions, comments, and suggestions for future shows. We would love to hear from you. So what would you like to discuss? Who would you like to hear? Please let us know. In today's show, we allude to National Poetry Day, Father's Day. We'll be discussing French politics and ecological debates, as well as language politics in Europe.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous discuterons quelques sujets d'actualité, notamment la démission de Nicolas Hulot, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi que la politique linguistique en Belgique, sans oublier la Journée nationale de la poésie et la fête des pères. Avant de procéder, nous partageons quelques événements organisés par l'Alliance française de Christchurch. N'hésitez pas à pratiquer vos poses de chien tête en bas lors d'une séance yoga en français. La prochaine ayant lieu le 8 septembre de 11h à 12h30. Deuxièmement, le 14 septembre de 17h30 à 19h30, il y aura un atelier pour les étudiants ayant au moins un niveau B1 sur l'histoire de l'art français moderne. Veuillez consulter le site de l'AFC pour de plus amples informations sur les horaires des ateliers de conversation et de grammaire qui auront lieu en octobre. Alors, transition maintenant, parlons de Nicolas Hulot.
Alors, c'est qui Nicolas Hulot ?
Alors, Nicolas Hulot, d'après le peu que je sais, est une personne assez célèbre en France parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'il est une personnalité de la télévision, oui. Un écologiste dans l'âme et en fait un précurseur, je pense, de ces mouvements un petit peu à la Richard Attenborough qui avait une émission à l'époque où j'étais enfant qui s'appelait Ushuaïa, qui était vraiment très très populaire et donc il a fait ses faits d'armes à cette époque-là. Très populaire chez les jeunes parce que justement c'était un écolo mais pas 68 heures, pas vieille école et je pense que c'était un sacré coup de poker et un beau coup de poker de Macron de l'avoir dans son gouvernement mais malheureusement lui
il a démissionné n'est-ce pas et il a démissionné à la radio et pas sur Paris s'éveille malheureusement ça aurait fait une belle publicité pour nous
alors raconte-nous un petit peu tu as vu un petit peu son coup de tonnerre
récemment il a démissionné. Il a décidé qu'il ne pouvait plus porter ce titre de ministre de la transition écologique et solidaire. Et il a voulu que cela provoque un sursaut, n'est-ce pas ?
C'est ses propres mots, je crois.
C'est ses propres mots. Donc sa conscience ne le permettait plus de continuer dans ce rôle. Un rôle qui se définit comme... le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est en France l'administration française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, etc.
Alors, vaste programme.
Vaste programme, oui.
Alors, il met en avant la pression de ces fameux lobbies.
Voilà. Tu peux nous en parler un peu plus ?
Écoute, d'après ce que j'ai vu et lu, il met un peu le blâme sur le fait qu'il a les mains un peu liées, il a toujours un peu les mains liées. Donc, même si le président Macron avait ce discours assez je ne vais pas dire démagogique, mais presque, c'est-à-dire raconter un petit peu ce que le peuple veut entendre au niveau donc, du développement durable,
comme
tu racontais. La pratique, en revanche, était loin d'être aussi satisfaisante. Et pour quelqu'un d'aussi idéaliste que Nicolas Hulot, mais aussi idéaliste, mais je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment, je pense, qu'on allait lui donner les moyens de faire... du travail et de pouvoir avoir des résultats, alors qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas.
Non, c'était pas possible.
C'est pas possible. Et moi, je trouve vraiment, c'est un... Enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet homme. Et je trouve que c'est tout à son honneur de démissionner comme ça. Bon, c'est sûr que c'est un coup d'éclat.
Oui, surtout parce qu'il a fait à la radio, il n'a pas prévenu le président, personne. Oui, voilà, mais il ne sentait pas qu'en politique, il était capable de changer les choses. Donc, ce sursaut qu'il voulait provoquer, c'est un sursaut surtout de la part de la société, non ?
Ouais.
Pour la société.
Tout à fait. Est-ce que tu penses que ça va être une réussite ?
Je ne sais pas. Déjà, le fait qu'on en parle sur Internet, je crois que ça, c'est un début.
En Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande, partout.
Mais ça fait un petit peu... Je l'ai entendu justement deux, trois fois à la radio en Nouvelle-Zélande. Parce que je pense que Nicolas Hulot a toujours joué d'une popularité extraordinaire. En plus, alors, il y a Laura Flessel, on a vu, qui a démissionné la même semaine. Peut-être pas pour des raisons semblables, mais au moins, il y a de la dissatisfaction dans le gouvernement, des petits problèmes internes, peut-être.
Tout à fait. Mauvais augure pour le gouvernement Macron, malheureusement.
Ouais.
Ouais.
Alors, son successeur ?
C'est François de Rugy, qui est ministère depuis deux jours.
Oui, bon, le pauvre Ivor, des sacrés... on n'est pas chaussures à remplir, non, des sacrés... shoes to fill.
Oui, sacrés shoes to fill.
Non, je ne sais pas. Il va avoir une sacrée... Ouais, déjà, il va falloir qu'il s'accroche parce que, bon...
il y a du pain sur la planche.
Du pain sur la planche, oui. Il va avoir justement aussi une réputation. Et je pense qu'aussi, il va avoir un petit peu à montrer que le ministère... a quand même un poids dans ce gouvernement Macron et que tout n'est pas dicté par ces fameux lobbies.
Exactement.
On parle beaucoup de ces lobbies justement aux États-Unis, mais bon, on oublie que, notamment, on parle aussi de la chasse. Récemment, Hulot était outré que, alors j'ai vu ça hier justement, le permis de chasse a été, le prix donc a été diminué de moitié. Alors qu'en fait, on voulait inciter justement les gens à chasser moins et ils se sont rendus compte que sous la pression de ce fameux lobby, parce que ce lobby de la chasse est assez conservateur, mais aussi France profonde. Donc, oui, on va voir un petit peu ce qui va se passer.
Tout à fait. Alors, pour rester sur cette thématique, mais faire appel aussi un petit peu à la poésie et rappeler à nos auditeurs que nous avons fêté le 24 août la Journée nationale de la poésie.
En Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande, voilà, merci. Je vais vous lire un poème de Francis Ponge, donc un poète de la modernité, né en 1899, mort en 1988. Le poème s'intitule... Poésie du jeune arbre. Ta rose distraite et trahie par un entourage d'insectes offre depuis sa robe ouverte un cœur par trop empiété. Pour cette pomme, l'on te rente, mais que t'importe quelqu'enfant fait de toi-même agitateur d'échoir le fruit comme la fleur. Quoiqu'encore malentendu et peut-être un peu bref contre eux, parle, dressé face à tes pères. Jeune homme vêtu comme un arbre, parle. Parle contre le vent, auteur d'un fort raisonnement. J'avais compté d'abord beaucoup sur les mots, jusqu'à ce qu'une espèce de corps me sembla sortir plutôt de leur lacune. Celui-là, lorsque je l'ai reconnu, je le portais au jour. C'est un beau poème.
Très beau, oui. Très plein de symboles.
Tout à fait.
Nicolas Hulot s'en est inspiré. Ah, parle.
Parle.
Il a peut-être lu juste avant de son émission sur RMC ou RTL, je crois. Peut-être qu'il a vu ça et il s'est dit, bon, j'en peux plus.
J'en peux plus. Et peut-être aussi ces lacunes de mots qu'il faut remettre en question. La parole est importante, les mots sont importants et l'engagement est important. La poésie aussi est porte-parole de tout cela. Donc, Il faut s'engager. Il faut s'engager en tant que société, d'après Hulot, et espérons changer quand même un petit peu nos manières d'être.
Tu l'as bien. Je pense que tu l'as bien souligné. Alors, on le dit souvent, on parle d'écrivains ou de cinéastes engagés. Je pense que Hulot a aussi montré que on ne peut pas non plus faire juste un boulot de ministre, surtout dans un domaine aussi important et aussi quand même crucial pour l'avenir, si on n'a pas justement des convictions personnelles. Et si ces convictions ne vont pas de pair avec le gouvernement. Ben, je pense qu'il a fait quand même une chose courageuse, assez noble même, hein, et culottée, comme on dirait.
Il faut le dire. Oui. Alors, on va prendre une petite pause. Et nous enchaînons avec une chanson de trio qui s'intitule « L'hymne de nos campagnes ».
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Alors, une belle chanson de trio que j'écoute depuis mon enfance.
C'est vrai?
Oui.
C'est vrai? Parce que, en fait, moi, je vous invite aussi, donc, nos auditeurs, à regarder le clip, là, la vidéo, parce que c'est vraiment magnifique. Un hymne à la campagne, aux campagnes, au mode de vie
et,
aussi.
Et de nos campagnes.
De nos campagnes, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Pour aussi le mode de consommation. Tout, donc, c'est vraiment, je pense que Nicolas Hulot apprécierait.
Tout à fait. Et ça fait un petit peu, alors, le poème qu'on a lu de Francis Ponge qui remet en question aussi le langage, la langue, sert de transition ici. Nous allons parler maintenant de quelques réformes linguistiques qui ont été proposées, du moins, en Belgique. Donc, nous avons deux anciens professeurs qui se sont liés à des linguistes pour proposer quoi exactement ? Eric.
Alors, ils veulent abroger la règle, cette fameuse règle de l'accord du participe passé.
C'est ça.
Pour les verbes en avoir, donc, quand justement le l'objet direct est passé avant, donc dans les trois cas qu'on connaît bien en français.
Oui.
Nos étudiants, je pense, vont faire des sursauts à cette idée, mais aussi, je pense, vont être aussi peut-être très contents de savoir que cette règle pourrait peut-être disparaître. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que...
Je lis rapidement la règle qu'il propose, c'est pas une règle encore, mais c'est une suggestion.
D'accord.
Je cite donc, le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde comme un adjectif, c'est-à-dire avec le mot auquel il se rapporte. Avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas. Voilà. Donc, un exemple qu'il cite, c'est, on écrira donc, la Coupe du Monde que la France a gagnée, avec E accent aigu, et non plus la Coupe du Monde que la France a gagnée, E accent aigu, E.
C'est un très bon exemple. Et à mon avis, je pense que c'est un coup des Belges, justement, de saboter la langue française à cause de cette fameuse Coupe du Monde. Non ? Tu ne penses pas qu'il y a un objectif un peu plus... je ne vais pas dire mesquin, mais bon. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors, moi, j'étais un petit peu départagé au début. Oui, je reste un petit peu classique, mais je reconnais tout de même que la langue évolue. La langue est vivante. Et on doit prendre en considération la manière d'écrire. On n'écrit presque plus avec une plume et un stylo. La manière de taper, qui a aussi des connotations un petit peu violentes. On pense à... taper sur un clavier, des captures d'écran, c'est quand même assez violent comme tâche.
Guerrier.
Belliqueux. Et la manière de textoter qui a un petit peu fait évolutionner aussi, notre langue. Voilà, donc je ne suis pas contre, ça va prendre un petit peu de temps pour que je m'y habitue. Mais alors dans la salle de classe, qu'on devrait faire ?
Alors nous, on enseigne par exemple au niveau 200, on en parle. Oui. Et je sais qu'il y a souvent des étudiants qui sont assez, comment dire, inquisiteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire, on leur parle par exemple du passé composé. Donc ils savent, quand on commence le passé composé, voilà, les verbes en être s'accordent, les verbes en avoir ne s'accordent pas. Puis un jour, ils voient la lettre que j'ai écrite, ou ils l'entendent même.
L'exception.
Et ils se demandent, les plus avancés, les plus curieux, disent pourquoi est-ce qu'il y a un E, on a dit que, voilà. Et donc, on sort cette fameuse règle, qui est quand même assez surfaite. Moi, on m'a raconté un jour que c'était donc une copie de ce que l'italien faisait à l'époque de la Renaissance. Mm-hmm. Donc, vraiment, quelque chose qui soit étymologiquement ou historiquement, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui correspond à une logique, je pense. C'est vraiment pour essayer de faire un peu comme faisaient donc nos voisins italiens.
Ouais.
Donc, si c'est le cas, et comme tu as dit, donc la langue évolue et donc le nombre de français de souche, locuteurs, je sais pas, nationalité, qui n'osent même pas cette règle, ou qui ne l'appliquent pas. On entend des gens, la lettre que j'ai écrite, les photos que j'ai prises, on entend ça tout le temps. Donc finalement, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas cette règle ou s'ils ne l'appliquent pas. Mais donc, à mon avis, c'est tout à fait normal.
Oui.
Ce n'est pas très naturel.
Ta référence à l'étymologie est appropriée aussi, parce qu'avant la création de l'Académie française, en 1635, la langue était assez volatile, n'était pas standardisée, et il y avait même des écrivains, des linguistes ou proto-linguistes, qui ajoutaient des références ou supposées références latines, en latinisant ou en italianisant davantage la langue, et des fausses étymologies.
Tout à fait. Ils ont inventé un peu.
Voilà, qu'ils ont inventé, et ces fautes sont restées fossilisées même dans la langue française, ce qui est assez intéressant.
Ouais.
Donc, oui, il faut prendre en considération, voilà, tes exemples le montrent bien, l'euphonie du français, la phonétique, le bon usage de la prosodie, les liaisons, les enchaînements, mais aussi l'écriture et la grammaire. Donc...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, alors, si les Belges vont plus en avant, bon, ils n'ont pas d'académie française, mais je pense que ça sera peut-être un avantage pour eux. Si ils font de cette règle suggérée une loi, qu'est-ce que ça va se passer? Donc, si on écrit donc, en français dans la Belgique, cette règle de grammaire ne s'appliquera plus, mais dans d'autres pays, ça accordera toujours, et donc ça fera une espèce de déséquilibre, je veux dire, parce que moi je pense pas que l'Académie française puisse accepter ce genre de choses.
Non, tu soulignes encore une fois l'autorité du français, des franco-français de France, de la métropole.
Est-ce que le français appartient à la nation française? Et non, il faut bien s'en accorder.
L'Organisation internationale de la francophonie est faite de 84 États-nations.
Voilà.
84 nations. C'est pas rien. En Europe, si je ne m'abuse, on est à 35% de locuteurs de francophones en Europe.
Ah.
Donc, il reste quand même beaucoup de francophones en dehors.
Ouais.
Oui. Et pourquoi ne pas faire évoluer la langue française en dehors de la métropole ? Les Québécois, sans doute, ils ont leur mot à dire.
Tout à fait. Oui. Alors, je vois maintenant, bientôt, te voir une académie française mondiale avec des ressortissants un petit peu de tous les pays francophones du monde. Alors, ça va être une sacrée... je ne vais pas dire un mot grossier, mais un bazar.
Un bazar.
Un sacré bazar.
Quelques dégâts. Alors, nous remercions nos chers auditeurs d'avoir écouté cette conversation entre Eric et moi sur l'écologie et sur la langue française et les réformes potentielles à la langue française. Et nous terminons avec un petit clin d'œil à la fête des Pères qui vient de passer cette dernière semaine. Une petite dédicace aux Pères, présents et absents, avec cette chanson de Claudio Capeo qui s'intitule « Riche ». Voilà.
Magnifique. Merci Antonio.
Merci à vous.
Merci tout le monde. Au revoir.
Merci Eric. Au revoir.
Il y aura les jours avec, les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche? On est riche d'être père. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. On est riche d'être père. Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils. Mais à deux,
on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père.